BFM Academy 2012, le premier concours de créateurs d'entreprises à la radio. Nicolas Dose, F. Chégaré et Sylvain Oribi sur BFM Business.
Voilà le jeu du meilleur patron, le jeu de ceux qui ont misé toute leur existence dans la réussite de leur entreprise, qui sont totalement sans filet, qui avant d'avoir gagné le moindre euro, généralement ont été très vite remarqués par des gens qui s'appellent URSSAF, des gens qui s'appellent FISC. Voilà, ce sont eux qui viennent chaque semaine vous présenter leur existence, leur pari dans cette émission. Et nous sommes, comme chaque semaine, avec mes camarades de jeu, F. Chégaré, bonjour.
Bonjour Nicolas,
coach
bonjour à
de
tous.
Décideur et d'entrepreneur, et avec Sylvain Oribi, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Les Técousmi, vous connaissez les Técousmi, la marque de thé bio Love Organic, les cookies Laura Todd. Alors nous allons vous présenter à nouveau deux créateurs d'entreprise, mais avant nous commençons avec les humeurs du coach et humeurs du chef d'entreprise. On y va.
Elle est une humeur bouquin, comme on le fait régulièrement.
Ah, j'ai plongé mon nez dedans, c'est génial, j'aime beaucoup.
Il est vraiment bien, tous orateur. Les auteurs, c'est Hervé Biju Duval et Cyril Delay. Honnêtement, je ne les connaissais pas. C'est chez Erol. C'est le bouquin que j'aurais voulu écrire l'année dernière. Sous-titre, convaincre, négocier, s'affirmer au quotidien. Et ce qui est vraiment super dans ce bouquin, c'est que vous avez des témoignages de comédiens, d'artistes, de chanteurs. Alors, on a Jean-Michel Jarre, Nicolas Lerich, Anne Roumanoff ou Alain Souchon ou Ali Badou qui nous racontent comment eux, ils ont fait pour surmonter le trac, pour apprendre à respirer, pour parler face aux autres, sortir de scène, être à l'écoute en même temps qu'on s'exprime, savoir écouter, donc un sixième point d'appui, des méthodes, des trucs.
Non, c'est génial. Il y a un truc que j'ai adoré là dans les 20 bonnes pratiques. À un moment ils écrivent, alors je sais pas comment ils le disent, c'est habiter les silences, un silence dans un discours,
ça, du
c'est
poids.
Hyper, c'est le coup de stabilo à l'écrit, c'est hyper efficace. Ah, vraiment bien ça.
Donc
c'est chez Erol, tous ouais. Orateurs chez Erol. Allons-y Sylvain Oribi.
Eh bien Sylvain Oribi, il est d'humeur bouquin aussi aujourd'hui. Et voilà, peut-être un livre que j'aurais eu également envie d'écrire, qui s'appelle 2012, 100 jours pour défaire ou refaire la France. C'est écrit par Jean-Paul Bettebès, qui
est le grand économiste du Crédit Agricole.
Voilà, le chef économiste du Crédit Agricole, et qui nous explique qu'en cette année électorale, on a d'énormes enjeux, ces 100 jours résument un peu le programme électoral du gagnant de la présidentielle, quel qu'il soit. Et je trouve ça tout à fait passionnant parce qu'on a vraiment un coup à pas louper là en 2012 pour sortir de cette crise, pour que le ralentissement dure pas pendant des siècles. Il va falloir se battre. Et il y a une chose qui m'a particulièrement intéressé et qui intéressera nos auditeurs, c'est qu'il parle des entreprises et il explique comment il faut absolument s'appuyer sur les entreprises, les libérer pour leur permettre de gagner de l'argent, ouais. Qu'ils investiront, qui permettra de créer des emplois, de gagner des parts de marché à l'export. Donc je trouve ça tout à fait passionnant, je trouve ça très très bien. Il faut qu'on s'appuie sur les entreprises et à la BFM Academy, on est les premiers à le faire. Et c'est un programme économique pour tous nos candidats qui en manquent cruellement,
et je peux le dire. Jean-Paul Bettebès nous explique effectivement qu'il y a un véritable compte à rebours. Dieu sait s'il a écrit des livres analytiques sur la situation économique. Celui-là, il le voit comme un compte à rebours. Et alors, il dit que celui, quand on aura réussi dans notre pays à poser la question comment faire pour que les entreprises fassent plus de profits, quand on aura osé mettre ces mots les uns à la suite des autres qui sont complètement tabous, on aura déjà fait un énorme pas en avant. Effectivement. Un livre absolument à consulter dans la période que nous vivons. Avec nous cette semaine, Xavier Mirabel, bonjour.
Bonjour.
Et Frédéric Francky, bonjour.
Et bonjour.
BFM Academy 2012, uniquement sur BFM Business.
On va commencer avec Xavier Mirabel, je vous parle de son entreprise dans un instant, mais d'abord le portrait du créateur d'entreprise, signé F. Chégaré.
Alors quelques mots, oui, pour vous décrire. Xavier, vous avez 42 ans, vous êtes originaire de Rhône-Alpes, mais vous êtes arrivé dans le Nord pour des raisons professionnelles, il y a 15 ans, et vous y êtes resté. Il faut croire qu'on n'y est pas si mal. Vous aviez fait une école de commerce, c'est l'IDRAC à Lyon, en 1992, et puis vous avez eu un parcours professionnel dans la grande distribution, entre autres chez Cadbury, Schweppes, vous y avez passé 5 ans, c'était très formateur. Vous avez eu une expérience à l'international, aussi dans l'industrie des arts de la table, chez Arc International. Et puis une expérience aussi en PME, dans le négoce de matériel d'espace vert. Mais dès 2008, vous créez une première société, une société de services, X-Insight, c'est de la direction externalisée pour les entreprises. Et puis vous avez envie de passer à autre chose, le service ne vous suffit pas. Vous voulez faire quelque chose qui soit en lien avec la région où vous vivez maintenant. Hein, on aura compris, on devine qu'il y pleut un petit peu. Et vous voulez exploiter cette pluie plutôt que la subir.
Voilà, le site s'appelle opluvia.com. O-P-L-U-V-I-A. IA.com. C'est, il vend une solution qui va récupérer et valoriser l'eau de pluie. Alors l'idée, c'est qu'on va récupérer les eaux de pluie dans une cuve cylindrique. Vous me corrigerez à la fin, il y a sûrement des inexactitudes, hein. Cette eau va être recyclée après avoir été plusieurs fois filtrée, par exemple pour aller remplir les chasses d'eau ou pour aller faire fonctionner un lave-vaisselle, mais aussi pour des besoins jusqu'à des besoins industriels ou des besoins agricoles. Puis si la citerne par malheur est vide, évidemment ça peut arriver, la bascule vers le réseau public se fera automatiquement, en tout cas pour les offres les plus premium qui sont proposées. L'idée, l'eau qui est récupérée depuis les gouttières va arriver dans une cuve en béton qui est enterrée et elle sera ensuite distribuée par une pompe et à plusieurs étapes, donc elle sera filtrée. Aujourd'hui, il y a 50% de ces solutions qui sont acquises par des particuliers et le reste par des professionnels du bâtiment qui construisent donc des bâtiments. Alors je vais citer les différentes solutions de manière très basique. Il y a Pluvia Simply. C'est la première. Elle est à 2566 € hors taxe. C'est la solution la plus simple, la plus basique pour le particulier. Chasse d'eau, voilà, un truc comme ça. Ensuite, on a Pluvia System, qui là a été davantage pensé pour des constructions neuves. Pluvia Performance, la station de pompage pour une consommation intensive, est-il écrit, et elle est gérée électroniquement. La quatrième sera Pluvia Home. À l'arrivée, l'eau est stérile, elle est stérilisée. Et enfin, il y a Pluvia Pro, qui elle est la solution totalement dédié aux professionnels du bâtiment et qui va s'adapter au cahier des charges et aux contraintes techniques. Est-ce que je suis dans le vrai ?
Tout à fait. Tout
Est-ce
à
que
fait,
là, a priori, les gens qui nous écoutent, qui n'avaient jamais entendu parler d'eau pluvia de leur vie, ont une idée ?
Tout à fait. C'est tout à fait l'offre qu'on propose aujourd'hui à destination aussi bien des particuliers que des professionnels, avec la volonté donc de récupérer l'eau de pluie dans D'accord. des réservoirs ou des citernes qui soient en dur ou en soupe.
Ce qui veut dire que comme il y a une cuve qui va être enterrée, il faut forcément qu'il y ait de la place, il faut forcément une maison. Pour un particulier.
Tout à fait. Pour un particulier, alors
appartement, ça colle pas.
Non, ça sera plutôt difficile en collectif, ça c'est clair, à moins que le promoteur ou le bailleur.
La copropriété.
C'est
voilà,
la copropriété. Comme à New York, là, on met des espèces
bah
de trucs de récupération.
Et ça se fait de plus en plus. Tout à fait. Et notamment dans d'autres pays, ça se fait de plus en plus fréquemment.
Donc là, je parle d'une solution technique que vous avez créée, qui est la vôtre, qui est déposée, hein.
Nous avons un brevet, notamment sur le Pluvia System.
La deuxième, donc le Pluvia System, c'est la deuxième solution. Et c'est vous qui allez installer?
Tout à fait. C'est une partie de notre activité. Donc, en fait, on est installateur et on vient poser nos systèmes chez nos clients. Avec la particularité et la différence peut-être par rapport à d'autres installateurs, c'est qu'on fait vraiment tout de A à Z, c'est-à-dire de la pose de la station, enfin de la cuve, jusqu'à la mise en route. Et D'accord. on va même au-delà à proposer des contrats de maintenance.
D'accord. Donc, Frédéric Franqui qui vient de Nice, a priori, sera pas intéressé par votre solution parce qu'il y a trop de soleil, hein.
Détrompez-vous parce que...
Ben non, mais... A priori, c'est quand même hyper intéressant là où il pleut suffisamment.
Alors, oui, bien évidemment, que le principe de gestion ne sera pas le même, c'est-à-dire qu'il y a une notion de stockage plus importante dans le sud, là où il pleut moins, mais le besoin reste le même. Il s'avère en l'occurrence que dans nos clients, nous avons une société de nettoyage qui a utilisé l'eau de pluie pour nettoyer des containers.
Alors juste un truc avant de faire réagir Sylvain et Ève, dans votre dossier de candidature, vous expliquez de manière un peu feutrée, mais racontez-moi, vous souffrez vraiment du lobby des grands distributeurs d'eau qui vous voient comme une concurrence ?
Oui, enfin oui et non, disons non, que j'en demande, souffre non, peut-être
je vous,
pas, mais...
Non mais je vous demande ça parce que j'ai rencontré des entreprises dans d'autres secteurs qui sont des petites face à des gros, et c'est pas joli joli quelquefois.
Non, mais ceci étant, on est sur un marché dont l'enjeu est énorme, le marché de l'eau est énorme au niveau mondial et au niveau France. Il faut savoir que la gestion de l'eau est principalement détenue par des leaders mondiaux qui sont français, et donc de ce fait-là, le secteur de l'eau est particulièrement... détenu par les mains de quelques entreprises.
Veolia et son environnement, voilà, c'est tout.
On peut les citer. Et donc forcément, sur un marché français, on a plutôt des freins que des leviers de croissance. Donc,
on la refait. Sur un marché français, on a plutôt des freins que des leviers de croissance.
Nicolas Dose veut que vous disiez les choses cash.
Ah ouais, c'est terrible parce que c'est terriblement vrai. Hein.
C'est le marché le moins développé en équipement, enfin le moins équipé en Europe en termes de récupération d'eau de pluie par rapport à des marchés comme la Belgique où depuis plus de 15 ans c'est obligatoire pour les constructions neuves. En Allemagne, ils ont également aussi énormément de systèmes installés et en Angleterre, pareil. Donc, on a vraiment un retard en France dans ce domaine.
Sylvain Ribier, chez Garem.
Alors, Nicolas a cité le prix de votre premier produit, le Pluvia Simply, qui vaut et qui commence à 2566 € hors taxe. Mmh. Alors, les autres, ils valent combien ? Alors,
sur une installation, effectivement, ce sont les premiers prix avec une citerne de 5000 litres, mais ça peut monter.
5000 litres, quand même.
Voilà. Ça peut monter jusqu'à 6000, 7000, 8000 euros selon les systèmes pour un particulier, pour une maison neuve. On va dire que pour une famille de 4 personnes dans une maison individuelle neuve, faut compter entre 4 et 6000 euros pour une installation, pour équiper les toilettes et le lavage et l'arrosage.
Une fois que c'est payé, c'est fini.
Ah bah il y a la maintenance après.
Il y a les filtres. On change les filtres.
Il y a quelques contrats consommables. De maintenance, je vois, le service malin, le service confort, le service tranquillité. Ça va entre de 65 à 375 € TTC par an?
Oui, oui, tout
par
à
an,
fait.
Hein.
Ouais.
Bon, et alors la question que je me pose, c'est le retour sur investissement. Quand on a installé la cuve qu'on a payé, c'est 7 000-8 000 euros, on les récupère au bout de combien de temps finalement?
Globalement, sur une famille de 4 personnes qui va faire une installation avec 10 000 litres, pour être clair, c'est aux alentours de 12 ans. 12 années.
12
années de
rentabilité. Oh, bah dites donc, faut être patient.
Faut être patient, mais en fait, cette durée est expliquée aussi par les systèmes et que la réglementation a imposé de plus en plus, qui fait que la rentabilité est assez faible, finalement.
Vaut mieux utiliser ça à Lille qu'à Nice, effectivement.
Voilà, effectivement, l'investissement n'est pas négligeable.
C'est pour ça que ça marche.
Maintenant, il y a des facteurs qui vont faire que ça va baisser. Le prix de l'eau va augmenter, va continuer d'augmenter.
Donc vous pariez sur l'avenir du fait des difficultés liées à l'eau.
Est-ce que vous pariez aussi sur l'état d'esprit, la prise de conscience, le côté « je suis citoyen éco-responsable » et blablabla.
Voilà. Au-delà de l'aspect économique, il y a un vrai enjeu aussi de responsabilité et de bon sens d'utiliser l'eau de pluie là où on n'a pas forcément besoin d'eau potable.
Est-ce que c'est assez moteur pour que les Français passent à l'acte et investissent, mettons, 4 000 euros plus un petit peu de...
Aujourd'hui, c'est vrai que il y a une prise de conscience. Elle est freinée par ce coût et cette rentabilité qui est encore un petit peu faible. Ceci étant, la construction, dès qu'il y en a une, les constructeurs, les particuliers ou les professionnels pensent systématiquement à s'équiper. Et de plus en plus, on va avoir quand même cette notion de bon sens de réutiliser l'eau.
Donc les promoteurs et les constructeurs sont vos clients indirectement ?
Oui, indirectement, prescripteurs. Et puis les collectivités commencent aussi à elles-mêmes imposer aux constructeurs et aux particuliers à s'équiper.
Ouais, Xavier, le problème, c'est que quand on rencontre des promoteurs, alors il y a ce qu'ils disent dans les micros, ce qu'ils disent off, ils vous expliquent qu'à cause des réglementations, à cause des exigences environnementales, en fait, les habitations vont commencer à coûter une véritable fortune de plus en plus cher, car tout est plus cher, car voilà. Et donc, au bout du bout, il y a quand même bien quelqu'un qui paye, avec effectivement une forme de point d'interrogation sur la date à laquelle il aura amorti son investissement.
Absolument. Xavier, une question. Est-ce qu'il y a un avantage fiscal derrière tout ça pour le particulier?
À ce jour, il y a un crédit d'impôt de 22% jusque fin 2012. Voilà.
Comment ça? Il existe encore celui-là?
Il existe encore.
Monsieur Barouin, vous en avez oublié un.
Il était de 25 il y a peu de temps, il est passé à 22. Ceci étant, on subit aussi la hausse de TVA pour la rénovation, qui a augmenté à 7%. Donc, il y a quand même d'autres contraintes, mais il y a quand même un crédit d'impôt et l'intérêt financier.
Ça vous fait pas peur, là, quand il va finir par tomber, ce crédit d'impôt?
Oui, ceci étant, je le mets pas en avant dans mon argumentaire commercial, dans le sens où on a vu les ravages que ça a pu faire dans d'autres secteurs.
Non, vous n'allez pas dire grouillez-vous parce qu'il y aura bientôt plus le crédit d'impôt.
Mais c'est vrai qu'on pourrait effectivement avoir peur de l'année 2012, dans le sens où le taux de TVA augmente, la loi Sellier est supprimée. Ceci étant, le taux de la construction a largement augmenté, les permis de construire ont augmenté de 16% l'année dernière en 2011. Il faut s'attendre à ce que 2012 ce soit en baisse, mais ceci étant...
Ça va quand même dans le bon sens.
Voilà, le potentiel reste dans le bon sens.
De quoi vous avez besoin, Xavier, pour transformer l'essai, pour vraiment passer un cap?
Aujourd'hui, c'est surtout d'avoir des partenaires industriels et des partenaires logistiques sur différentes régions pour pouvoir développer nos produits qu'on souhaite développer sur la France.
Voilà. BFM Academy 2012, ils y croient, mais croirez-vous en eux?
Voilà, opluvia.com avec Xavier Mirabel, ils sont 3, ils seront peut-être 5 à la fin de l'année s'il y a des embauches comme prévu. 420 000 euros de chiffre d'affaires attendu cette année avec un équilibre en 2013 et puis une perspective bien heureuse d'1 000 000 d'euros d'ici 5 ans. Opluvia, l'installation technique qui va récupérer, filtrer et recycler les eaux de pluie du particulier jusqu'à l'exploitation agricole. On marque une pause, on se retrouve dans un instant.
BFM Academy 2012, le premier concours de créateurs d'entreprises à la radio. Nicolas Dose, F. Chégaré et Sylvain Oribi sur BFM Business.
Notre second candidat cette semaine, il s'appelle Frédéric Francky. Il a créé Clear City. Qui est Frédéric Francky? Frédéric.
Alors Frédéric, vous avez 40 ans, vous êtes arrivé ce matin très tôt de Nice, où vous êtes installé. Alors vous êtes fasciné depuis votre enfance par l'entrepreneuriat et puis aussi par le monde du show, du spectacle. Et alors très jeune, vous aviez à peine 16 ans, vous êtes sorti de votre première S, vous étiez tranquillement avec l'intention de créer une société, vous l'avez fait. Vous étiez un self-made man, comme on dit, fasciné par les autres self-made men. En 88, vous montez une première boîte dans la pyrotechnique, les shows laser, ça s'appelait Ligne de Feu, ça a très bien marché. mais la guerre du Golfe est arrivée à un petit peu compliquer les choses. Vous aviez acheté un gros laser, vous avez trouvé l'option de le louer à des établissements comme des discothèques, donc vous êtes allé plutôt vers le monde du spectacle, effectivement, et de la nuit. Vous êtes arrivé 10 ans plus tard à être directeur des spectacles et des opérations événementielles du Casino de Menton, du groupe Lucien Barrière. Et puis après, vous êtes passé complètement à autre chose. Vous avez eu envie de tenter votre chance dans les revêtements de façade et ensuite dans l'impression numérique. Vous avez profité de la belle époque de l'impression numérique. Plus tard, vous aviez envie finalement d'être moins lié aux fluctuations économiques et commerciales. Vous venez à la propreté industrielle et c'est ce qui vous amène aujourd'hui.
Et c'est ce qui amène clearcity.fr, clear, C-L-E-A-R, city, C-I-T-Y.fr, clearcity.fr. C'est un réseau de franchises dans le secteur des services de la propreté, spécialisé dans l'entretien, la maintenance, des habitations, des bureaux, des locaux commerciaux. Alors pareil, vous me direz à la fin, Frédéric, si j'ai dit n'importe quoi. La particularité du réseau est qu'il est spécialement pensé, notamment pour ceux qui se lancent dans l'aventure de l'entreprise. Clearcity va permettre à ceux qui souhaitent se lancer dans le métier de l'entretien de bénéficier de l'expertise de ce réseau dans plusieurs domaines. Dans l'assistance administrative, l'assistance juridique, dans la formation, dans la fourniture des équipements qui sont nécessaires pour démarrer l'activité ou même dans l'assistance commerciale et administrative. Vos clients, vous les décrivez comme des agents d'entretien qui souhaitent se mettre à leur compte, des demandeurs d'emploi qui se lancent dans la création d'entreprises ou bien même des sociétés déjà existantes mais qui souhaiteraient intégrer le réseau. Et en rejoignant Clearcity, eh bien, ils auront accès, et là je vais vous citer, à un outil de gestion intranet accessible en ligne. Ils bénéficieront des actions commerciales que vous menez chez Clearcity et ils profiteront d'économies d'échelle. Est-ce que, a priori, c'est ça?
Oui, absolument.
Bon, il n'y a rien à dire.
Vous l'embauchez?
Première question d'abord, vous n'êtes qu'à Nice aujourd'hui, ou pratiquement?
Oui, c'est sur le secteur de Nice que donc 5 franchises ont été créées.
D'accord.
Nous sommes donc spécialisés effectivement dans l'entretien des bureaux et des copropriétés. Et le réseau a pour vocation de bien aider les personnes qui souhaiteraient rentrer dans le domaine de nettoyage industriel. On n'est pas dans le domaine des services à la personne.
Non.
Vraiment nettoyage industriel, bureaux et copropriétés, ou de fédérer les petites structures, j'entends les structures ayant moins de 10 salariés, car
TPE, quoi.
Bon. Toute petite entreprise, nous sommes à ce niveau-là 70%, enfin les petites sociétés représentent 70% des intervenants aujourd'hui en France.
D'accord.
Dans le secteur du nettoyage.
Alors vous avez, vous, une ancienneté dans ce métier, et finalement cette activité Clearcity voit le jour quasiment au moment où nous parlons, c'est quand même tout embryonnaire. Quel est le business model? Qui vous paye dans l'histoire? Comment vous gagnez de la vie, de l'argent avec Clearcity?
Alors, j'ai surtout développé sur les fonds propres les outils, notamment informatiques, entièrement sur les fonds propres issus de mon activité de nettoyage, puisque j'ai par ailleurs une activité de nettoyage traditionnelle, une structure de nettoyage. Elle me permet également, cette structure, de valider que les propositions faites pour le réseau fonctionnent réellement, hein, dans le réel. Et donc,
finalement, votre structure aujourd'hui existante sert de bêta testeur à l'activité Clearcity.
C'est
Mais bon, le business model, comment ça va rapporter de l'argent, Clearcity?
Ben, c'est une franchise, donc nous sommes sur des royalties sur chiffre d'affaires, une partie pour le réseau et une autre partie de 2% pour la gestion de la publicité. Voilà, consacrée à la publicité.
Alors, il y a un apport, combien ça coûte de lancer une franchise
Alors, le droit d'entrée est fixé à 15 000 euros, et ensuite nous avons différents modules comprenant la dotation en matériel pour une personne qui n'aurait jamais travaillé dans le domaine du nettoyage. On lui apporte tout le matériel pour pouvoir commencer, et aussi la formation sur le terrain, soit sur une structure, une franchise à Nice, soit éventuellement.
D'accord.
Sur d'autres
structures. Donc n'importe qui peut se lancer, pardon, vous dites, si quelqu'un ne fait pas partie du métier?
Oui, je pense qu'aujourd'hui le secteur du nettoyage, on vit une époque de crise. Ce secteur est intéressant parce que lorsque l'on a conclut un contrat, c'est un contrat qui est annuel. On a une très bonne visibilité au niveau du chiffre d'affaires. Et c'est quelque chose, je pense, de rassurant et sur lequel on peut véritablement investir aujourd'hui.
Sylvain Aurébi.
Est-ce qu'il faut un local? Vous avez des boutiques dans les rues? On voit Clearcity dans les rues? Ou ce sont des gens qui sont installés chez eux, dans leur garage?
Oui, ils sont installés chez eux. Justement, nous n'avons pas besoin de faire des investissements au niveau de locaux. La publicité est essentiellement faite donc sur les véhicules et sur les tenues vestimentaires des intervenants.
Expliquez-moi ce que vous appelez dans votre candidature à l'émission, la conception du rôle de franchiseur. Quelle est votre conception du rôle de franchiseur?
Alors effectivement, la franchise, je pense, est une bonne solution, notamment pour les futurs franchisés. Elle est très encadrée, vous le savez certainement, en France par la loi Dubin. Il est nécessaire d'apporter des informations et des moyens réels. On appelle ça la Bible dans une franchise. Nous avons opté pour concentrer ces outils de développement de gestion sur et par l'internet. Donc nous avons un intranet très développé qui permet à une personne seule d'avoir même sur son smartphone l'intégralité de son fichier client, l'intégralité de ses prestations. Nous offrons
sa compta aussi, il l'a fait avec vous.
Sa compta, la gestion de ses factures, si elles sont payées ou pas, tout ça est complètement mobile.
Et tout ça pour 15 000 euros, parce que je trouve que c'est pas très cher finalement comme droit d'entrée.
Oui, mais il faut quand même être raisonnable. Je pense que c'est tout à fait correct.
Pour votre secteur, pour votre région, c'est correct par rapport à quoi? Bon, c'est évident, quand on va ouvrir un commerce de 100 mètres carrés, ça va nous coûter la même chose, c'est bien normal, mais ça donne l'impression que n'importe qui peut, avec un petit prêt, au besoin, se lancer.
Bon, une personne seule qui souhaiterait le nettoyage est quand même les personnes qui sont ciblées dans le nettoyage n'ont pas beaucoup peut-être de revenus, et il faut pouvoir leur donner un point d'accès qui soit relativement accessible et pas le mettre trop
Alors,
haut.
Alors l'intranet, c'est vraiment une particularité de votre réseau de franchise.
Oui, vraiment.
Ça n'est pas quelque chose qui est fait de manière courante. Hein.
Non, c'est vraiment une particularité. Alors, les possibilités que donne l'intranet sont notamment pour nos clients qui sont des syndics, de les avertir de tous les événements que nous pouvons constater lors de nos passages sur les copropriétés. Grâce à cet intranet, nous avons la possibilité de les informer immédiatement d'un problème en prenant une photo. Cette photo est horodatée, elle est envoyée par rapport à cette base de données client directement au gestionnaire qui va pouvoir prendre des mesures. Et ça, c'est une exclusivité que nous avons développée, qui est aux yeux des syndics quelque chose de véritablement novateur. Nous sommes un petit peu leurs yeux et leurs oreilles, et c'est un avantage concurrentiel certain.
Quand avez-vous lancé votre première franchise?
Alors la première franchise a été lancée en 2007. Le franchisé était en fait mon premier salarié. J'ai vu que le domaine du nettoyage l'intéressait, et je pensais qu'il était tout à fait intéressant de l'aider à s'installer et de participer pleinement à son évolution et à sa réussite, plutôt que de le voir partir. Et c'est comme ça qu'est née, je dirais, vraiment l'idée de franchise.
Alors ça marche bien, ce qu'il a lancé là?
Absolument. Alors, il a, lui, personnellement, bon, il est toujours en activité, donc ça fonctionne très bien. Il n'a pas souhaité, lui, pour des raisons personnelles, développer le commercial. Par contre, j'ai un franchisé qui est rentré il y a 2 ans, qui donc avait 53 ans suite à un licenciement économique. Il s'est mis dans le nettoyage et aujourd'hui, il a déjà 5 salariés.
Alors, qu'est-ce que ça gagne, le franchisé? Est-ce que chacun de vos franchisés gagne de l'argent?
Oui, tout à fait. On arrive à générer, sur une structure de 5 à 6 personnes, un chiffre d'affaires de 350 000 euros par an.
BFM Academy 2012, ils y croient. Mais croirez-vous en eux?
Il a 100% du capital, hein, Frédéric Franqui. Il y aura 100 000 euros, si tout va bien, de chiffre d'affaires en 2012. Il cite Peter Drucker dans sa candidature à la BFM Academy, qui était un théoricien américain du management célébrissime, qui est mort en 2005. On l'avait appelé le pape du management. Et Peter Drucker disait: la meilleure façon de prédire l'avenir est de le créer. Et il y a une autre phrase de Peter Drucker qui ira très bien à votre activité. La raison d'être d'une organisation, c'est de permettre à des gens ordinaires de faire des choses extraordinaires. On marque une deuxième pause et on se retrouve dans un instant.
BFM Academy 2012, le premier concours de créateurs d'entreprises à la radio. Nicolas Dose, Eve Chégaré et Sylvain Oribi sur BFM Business.
On va commencer tout de suite recommencer l'émission avec Xavier Mirabel et son entreprise opluvia.com.
BFM Academy 2012, la mouche du coach.
Donc je vous rappelle ce qu'il fait, c'est une installation technique, qu'il vend, qu'il installe, et après il y a la maintenance, et puis il y a effectivement des consommables comme les filtres. Il est installé à Lille, enfin à côté de Lille, et cette installation technique va récupérer, va filtrer, va permettre de recycler les eaux de pluie, que ce soit pour le particulier, mais même pour des gros sites industriels ou agricoles. Et il y a effectivement 5 offres différentes, de la plus simple, Pluvia Simply, donc à partir de 2 566 € hors taxes, jusqu'au Pluvia Pro, qui là est une solution totalement prévue pour les professionnels du bâtiment qui construisent. On évoquait tout à l'heure le fait que pour une famille de 4 personnes dans une maison, parce qu'évidemment il y a une cuve enterrée, donc il vaut mieux avoir une maison avec un bout de jardin, eh ben il fallait une bonne grosse dizaine d'années quand même pour imaginer avoir rentabilisé son investissement. Mais au-delà de l'argent, quand on parle de l'eau, quand même toute une dimension autour de l'eau qui dépasse un petit peu les notions purement économiques. Voilà, ils attendent l'équilibre en 2013, 420 000 euros de chiffre d'affaires cette année. Il a 90% du capital, Xavier Mirabel, et il est impliqué dans l'aventure avec Patrick Ponchaud. Ils sont 3 au total, dont les 2 que je viens de citer. Ils seront peut-être 5 à la fin de cette année. Et l'objectif, c'est de recruter pour tripler le chiffre d'affaires. Recruter pour tripler le chiffre d'affaires. Alors, Sylvain Rébi qui commence?
Je commence, Nicolas. Xavier, alors, évidemment, votre système, ça part d'une très bonne idée. Évidemment, il faut qu'il pleuve. Hein. Mm-hmm. Alors, je ne sais pas du tout ce que les conditions climatiques des prochaines années ou décennies nous préparent, mais enfin, il va pas falloir qu'on ait une grosse sécheresse parce que ça n'a pas très bien fonctionné. Cela dit, je trouve que c'est une très bonne idée de récupérer de l'eau de pluie. On n'en parle pas beaucoup. On a beaucoup parlé du solaire, les maisons qui s'équipaient de panneaux solaires pour chauffer leur intérieur ou leur eau. D'ailleurs, vous pourriez peut-être marier. Vous pourrez faire de l'eau chaude peut-être avec des panneaux solaires.
Oui,
c'est prévu,
on pourrait,
ça.
Oui, on pourrait.
Bon, voilà une idée. Vous repartirez pas les mains vides. L'eau de pluie, la récupération d'eau de pluie, c'est écologique, évidemment. C'est économique. C'est donc très utile. C'est un métier d'avenir parce que je pense qu'on va de plus en plus aller vers ce type de récupération. Parce qu'on, même si vous nous dites qu'il faut quand même 10 ans pour amortir, il va falloir peut-être que vous trouviez quelque chose pour que ça s'amortisse un peu plus rapidement. C'est multi-usage. Alors vous l'utilisez dans les espaces verts, évidemment, dans les maisons, le domestique, les chasses d'eau et lave-vaisselle. Au plan agricole, vous avez beaucoup d'utilisation agricole?
Oui, il y en a beaucoup. Alors, une précision malgré tout, c'est une activité et les usages sont encadrés par une réglementation. Il y a un décret depuis 2008 qui limite l'usage au WC, au lave-linge et à l'arrosage extérieur.
À aucun moment, ça ne serait potable éventuellement.
Hein. Non, aujourd'hui, par principe de précaution sanitaire, en France, on limite l'usage.
Et puis le dernier usage,
il y a peut-être des endroits où...
À titre d'exemple, en Allemagne, c'est autorisé pour les lave-vaisselles, ça ne l'est pas en France.
D'accord. Lave-vaisselle n'est pas autorisé. Il y a un usage industriel aussi. Vous avez beaucoup d'industriels qui utilisent votre...
Oui, à la fois pour leur usage purement interne de sanitaire ou espace vert, et pour des process industriels. Oui, certains y pensent, sauf si ça nécessite quelques traits pour les traitements de surface d'avoir une eau particulière. Oui. Mais beaucoup y pensent.
Les entreprises de lavage de voitures, non, on n'en a pas parlé, mais c'est bien parce que ça, il n'y a pas de calcaire forcément. Et donc pas de traces sur les carrosseries.
C'est l'intérêt de l'eau de pluie, elle est douce, elle ne contient pas de calcaire, donc elle intéresse beaucoup d'utilisateurs.
Alors donc tout ça me semble tout à fait complet. Ça s'adresse à la fois aux particuliers et aux professionnels. Vous avez fait un site internet que j'engage tout le monde à aller voir qui s'appelle eaupluvia.com, qui est très complet, qui présente tous les usages possibles, les 5 solutions que vous avez développées, que Nicolas a citées. Je vois que vous avez un brevet pour l'une des solutions qui est le Pluvia système.
Oui, c'est
et
ça.
Pourquoi il n'y a pas de brevet pour les autres? Alors qu'est-ce qu'il a de spécial celui-là et qu'est-ce que les autres n'ont pas?
La particularité de ce brevet, c'est qu'il permet de faire une bascule automatique sur l'eau de ville directement à l'intérieur de la cuve, chose que d'autres systèmes n'ont pas puisque ce sont des systèmes extérieurs.
Très bien. Alors donc tout ça est parfait. Je m'interroge sur votre avenir parce qu'il y a des problèmes réglementaires que vous avez cités, dont vous parlez régulièrement. Il y a le blocage des sociétés, des grosses sociétés d'eau qui peut vous gêner. Alors comment est-ce que vous allez faire en sorte que votre avenir soit ensoleillé, même si c'est de l'eau de pluie qu'il vous faut?
Je pense qu'il y a déjà une conviction que le bon sens va l'emporter, c'est-à-dire l'usage de l'eau
ça, c'est
au sens
gagné,
large, donc
pas
c'est pas forcément gagné. Mais... Au-delà de ça, c'est surtout que la réglementation va certainement aussi contraindre à l'utilisation de cette eau de pluie.
Oui.
À titre d'exemple, beaucoup de collectivités aujourd'hui obligent les particuliers ou les professionnels à utiliser l'eau de pluie de plus en plus. Pourquoi ? Parce que c'est complètement lié de façon générale à la gestion de l'eau et à l'assainissement de l'eau. Aujourd'hui, les collectivités poussent de plus en plus de particuliers à gérer les eaux pluviales sur leur terrain directement et ne pas les rejeter au réseau public parce que les réseaux publics sont obsolètes, saturés et ça nécessiterait de très gros moyens pour les collectivités de les remettre en état.
Moi, j'aime bien votre façon de parler du bon sens. Vous l'aviez écrit d'ailleurs dans votre dossier d'inscription, et puis on vous l'entend
vrai.
Le
c'est
dire.
C'est vrai, la culture du bon sens.
La culture du bon sens, mais c'est tout ce que vous dégagez, Xavier, vous et votre activité. C'est revenir à des choses, ou trouver de bonnes idées pour faire des choses qui ont vraiment du sens et a fortiori du bon sens. Et alors, Sylvain en sourit en disant, bon, laisser le bon sens emporter, c'est pas évident. Mais on se rend compte que finalement, sous la contrainte ou quand on n'a plus vraiment de temps, quand on arrive aux échéances, en France ou ailleurs d'ailleurs, on finit par s'y mettre.
C'est sûr que le jour où Angela Merkel va imposer de recycler l'eau, ce sera bon.
Voilà, notre patronne Saint-Ans, Angela. Voilà. Et donc, évidemment qu'on est en train d'y venir, on ne cesse de dire que l'eau, c'est l'enjeu de ce siècle, peut-être moins dans le Nord que dans d'autres régions du globe, et pourtant, donc moi, j'adore, voilà, vous le mettez en œuvre, ce chantier-là, et vous en faites quelque chose. Je reste étonnée que ça s'amortisse effectivement si lentement, si on peut dire lentement, parce qu'en même temps, 10 ans, 12 ans, c'est vite passé, mais... Oui. Ça, évidemment, si vous trouvez un truc pour booster ça, ça sera génial.
La loi nous aidera peut-être à le booster, mais non, faut pas mentir aux gens. À un moment donné, c'est pas en 6 ans qu'on va l'amortir. Il y a des, comme on l'a dit, des consommables, mais je pense qu'à un moment donné, 10 ans, 12 ans, c'est pas si long que ça finalement dans une construction neuve. Et puis au-delà de ça, il y aura des choses qui vont aussi bouger, comme le prix de l'eau. Ou d'autres choses qui vont faire en sorte que la durée d'amortissement risque de baisser.
Les incentives fiscales qui risquent malheureusement d'être de moins en moins généreuses, voire de disparaître.
Vous n'avez pas moyen de produire moins cher finalement. Qu'est-ce qui fabrique vos systèmes?
Alors on essaie d'exploiter aujourd'hui des outils. C'est ce qu'on essaie de développer nous-mêmes chez Opluvia. C'est des systèmes prêts à brancher, on va dire, et de manière à limiter le coût pour les professionnels et de revendre ces matériels-là à d'autres professionnels du bâtiment. Et donc en sélectionnant des produits qui, de par leur qualité et leur prix, bien évidemment, permettrait d'abaisser le prix d'une installation.
Et les incite à installer un peu systématiquement.
Tout à fait.
Quoi.
Tout à fait.
Moi, je m'interrogeais sur votre capacité à, en cas de réussite, à servir un grand nombre de clients. Comment est-ce que vous allez produire tous ces systèmes? Comment vous allez les installer?
Alors déjà, on se limite sur notre région Nord-Pas-de-Calais-Picardie pour tout ce qui est installation auprès des collectivités, petites entreprises ou particuliers. Au-delà de cette région, je dirais que sur la France, l'ambition est aussi de développer la revente et la fourniture de matériel pour les professionnels. Et donc là, au travers d'un réseau, si possible, ou de partenaires, distributeurs ou installateurs sur d'autres régions de France.
Mais qu'est-ce qui fabrique vos systèmes, en fait? C'est
donc,
vous qui les fabriquez?
On achète les matériels et on les assemble. Là, pour l'instant, nous avons la place pour pouvoir assembler. On a un atelier, et s'il faut effectivement recruter dans ce sens, on sera amené à le faire de toute façon.
Vous n'avez pas besoin d'avoir quelqu'un qui entre un peu à votre capital et qui vous aide un peu et mette de l'huile dans les rouages, là?
Je rappelle que vous avez 90% du capital aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Alors, à très court terme, je dirais que non. Par contre, c'est vrai, dans ce développement-là, à 6 ou 12 mois, il est clair que si on veut vraiment mettre le booster sur le développement, notamment du négoce et de la fourniture de matériel, il va falloir qu'on développe un réseau, recruter, où là, bien évidemment, l'apport financier sera nécessaire.
Et ce serait de quel ordre? Vous avez déjà fait
Les
calculs savants.
Les perspectives sont là autour de 50, 100 000 euros, j'irai dans un premier temps, pour pouvoir démarrer vraiment un réseau complet au niveau de la France.
Qui vous aide, qui vous soutient le plus aujourd'hui dans votre développement?
Alors, au-delà de la famille en tout premier lieu, il y a surtout le réseau Entreprendre Nord, dont je suis lauréat 2011, et qui a, au-delà de l'aspect financier par le biais d'un prêt d'honneur, nous supporte énormément au travers du conseil et des relations et de l'échange qu'ils font au travers des clubs avec d'autres chefs d'entreprise. Et ça, c'est une aide que je recommande à tous.
Non, mais c'est vrai que je garde là de votre intervention, Xavier, l'impression de quelqu'un qui s'est lancé dans quelque chose de tout à fait sérieux et qui est en même temps face à de gros qui pèsent lourd, qui vous aident pas tout le temps. Donc, je vous souhaite vraiment de trouver le bon relais.
Je m'interroge aussi pour votre sur votre avenir. Si vous arrivez à vraiment vous développer, ce qui me paraît très probable,
il va peut-être falloir choisir entre le B2B et le B2C. Il va falloir décider si vous livrez uniquement aux professionnels ou si vous allez plutôt vers le particulier, parce que ça sera peut-être compliqué
pour moi, c'est clair, de faire les deux. Alors, on va aller vers le B2B dans tous les cas, c'est-à-dire les collectivités, les entreprises, de manière à ce qu'effectivement on développe au niveau national.
Donc, allez, le mot de la fin.
Ouais, le mot de la fin, moi j'aime beaucoup, il a beaucoup d'humour, Xavier, et quand on lui demande le don qu'il aimerait avoir, que Eve l'a cité, il dit la danse de la pluie, savoir faire la danse de la pluie, et c'est vrai que ça serait bien utile pour son activité.
L'anecdote.
Vous avez déjà essayé la danse de la pluie ou pas?
Je vais tenter de m'y mettre tout de suite parce que sinon, c'est le choix pour se développer.
Il est grand temps.
BFM Academy 2012, ils y croient. Mais croirez-vous en eux?
Peut-être qu'un jour, il pourra faire de l'eau potable aussi, Xavier Mirabel. Sait-on jamais? Parce que le manque d'eau potable, ça tue quand même plus que les guerres et les sida réunis tous les ans dans le monde. Alors, évidemment, on connaît pas ça dans nos pays. Voilà. On marque une dernière pause. On se retrouve dans un instant avec la seconde mouche du coach de la semaine qui concerne Frédéric Francky et Clear City.
BFM Academy 2012, le premier concours de créateurs d'entreprises à la radio. Nicolas Dose, Eve Chégaré et Sylvain Oribi sur BFM Business.
Avec Frédéric Francky, notre second candidat cette semaine, et son entreprise s'appelle Clear City.
BFM Academy 2012, la mouche du coach.
Bon, en deux mots, je vous rappelle, hein, clearcity.fr, c'est un réseau de franchisés dans le domaine de la maintenance, de la propreté des locaux, mais avec une vision assez vertueuse, on va dire, de la notion de réseau. Notamment aider ceux qui débutent dans le secteur, dans l'entrepreneuriat et dans ce secteur-là, avec une gestion tout à fait nouvelle, tout à fait pertinente de l'ensemble de la vie professionnelle du nouveau venu, j'ai envie de dire, qui se fait intégralement par intranet au moyen d'un outil qui est visiblement totalement inédit et qui a été mis en place par Clear City. Le droit d'entrée est à 15 000 euros. Et finalement, on est arrivé à la conclusion que c'était pas si cher que ça, 15 000 euros, compte tenu de l'ensemble des services qui étaient ensuite proposés par le réseau. Il a 100% du capital, Frédéric Francky. Il n'a pas encore de salarié. Il espère en avoir deux ou trois cette année. Aller jusqu'à 100 000 euros de chiffre d'affaires si tout va bien. Et il citait Peter Drucker. Je vais vous le redonner parce que c'est quand même très très beau. Donc ce théoricien américain du management qui nous a dit un jour. D'ailleurs, c'est toujours la phrase qu'on met en exergue lorsqu'on parle de lui. La meilleure façon de prédire l'avenir est de le créer. Et ben, il a mis en application cette maxime de Peter Drucker dans son aventure professionnelle. Étant lui-même un professionnel du secteur de la propreté, il en a fait un réseau de franchisés qui pour l'instant est principalement actif dans les Alpes-Maritimes à Nice. Voilà pour le petit portrait. Eve Chégaré et Sylvain Rébi.
Je commence alors, Frédéric. Vous êtes parti d'une entreprise de nettoyage classique que vous avez créée en 2004.
On peut la citer, Vendôme Propreté. Hein,
pour Vendôme Propreté, absolument. Et vous avez cherché comment passer à l'étape supérieure. C'est très bien. Je trouve que c'est une excellente idée. Vous avez ensuite pensé qu'un réseau avec un nom bien identifié, bien compréhensible, rassurerait les entreprises. Et vous avez raison. Bravo, encore une deuxième bonne chose. Clear City, c'est un très bon nom. Je trouve que ça colle bien. Et puis je peux vous dire que quand on est une PME, trouver un prestataire pour faire le ménage dans ses bureaux, c'est pas évident. Parce que soit vous tombez sur les énormes boîtes que tout le monde connaît, et puis c'est un petit peu pas très personnalisé, si j'ose dire. Soit vous tombez sur le petit bonhomme ou la petite bonne femme du coin qui fait le ménage un peu à sa façon. Je trouve que c'est bien pour les PME d'avoir un prestataire identifié. Vous avez identifié, vous avez développé un site très bien fait, très complet, très propre, je dirais, si j'osais un jeu de mots un peu facile, qui fait rire Eve, déjà, c'est déjà ça de prix. Vous mettez en avant dans le site vos objectifs, vos compétences, votre réactivité, bref, le service, puisque c'est ce que vous vendez, c'est vraiment du service. Allez voir sur le site, il y a une photo de maître d'hôtel en gants blancs. On voit, c'est très bien fait, ça correspond très bien à l'image que vous voulez donner. Et vous utilisez, il faut le dire, parce qu'on est dans l'écologie aujourd'hui avec nos deux candidats, des produits ayant reçu l'écolabel. C'est quoi l'écolabel ?
Au niveau de la composition des produits qui ne dégagent pas, qui utilisent le moins possible d'agents chimiques dangereux.
Et ben c'est très bien. Voilà, donc beaucoup de bons points. Alors vous avez décidé avec votre bonne idée de vous lancer en franchise. C'est aussi une bonne idée, sauf que la franchise c'est un métier. Et alors ça s'improvise pas. Et on ne se lance pas dans la franchise comme ça du jour au lendemain. Et c'est compliqué. D'ailleurs, vous le dites vous-même dans votre dossier, on en parlait tout à l'heure, vous avez voulu vous rapprocher d'un de vos concurrents. Et vous dites, on n'avait pas du tout la même conception du rôle de franchiseur. C'est-à-dire que vous avez réfléchi à cette idée de franchise et vous imaginez que vous avez les compétences pour développer véritablement un réseau de nombreux franchisés.
Alors oui, dans le projet, je précise bien que l'idée est de créer des structures de petite taille. Il n'est pas question de lancer des sociétés avec une trentaine ou une quarantaine de personnes. C'est une franchise qui a pour vocation d'aider une personne dans un premier temps à réussir dans le domaine et de l'amener à avoir 7 ou 8 salariés. C'est la taille que nous souhaitons développer comme entreprise.
Vous ne pouvez pas réduire, vous ne pouvez pas dire aux gens ne dépassez pas les 5 ou 6 ou 7 salariés. L'idée de la franchise et de ces entrepreneurs, puisque ce sont des entrepreneurs, c'est vraiment de se développer. Et la franchise, c'est la même, que vous ayez 2 salariés ou pas. Vous, votre réseau de franchise, il doit répondre à des règles très précises. Sa rentabilité, typiquement, est-ce que avec 15 000 euros, vous gagnez suffisamment d'argent? Est-ce que les 2% que vous prenez, et lesquels, je ne sais pas quelles sont les autres règles de votre franchise, est-ce que tout ça fonctionne? Est-ce que vous avez testé en grandeur nature cette
alors les projections
ce modèle de
chiffrées
franchise
sur une base font que la franchise comment dirais-je serait amortie sur une base d'une trentaine de franchisés sur la France. Voilà, trentaine de franchisés, pas plus.
Alors, effectivement, en vous écoutant tout à l'heure, je me suis dit, mais finalement, est-ce que Frédéric Franqui a pas plus envie de monter un système qui aide des gens à se lancer, parce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Vous avez vous-même un parcours finalement assez atypique, puisque vous êtes passé par l'entrepreneuriat très jeune, mais dans des activités très différentes. Donc, vous savez ce que c'est que de rebondir, vous savez ce que c'est que d'avoir le sens de l'initiative et de créer quelque chose de rien presque, hein, comme vous avez pu le faire dans d'autres métiers. Donc je sens très fort, et puis c'est vrai qu'on en a parlé un petit peu avant, je sens très fort l'envie d'aider d'autres à faire quelque chose de leur vie, tout court. Hein. Mais est-ce que cette franchise, elle est faite pour vous faire gagner de l'argent à vous? Vous avez déjà une ou deux structures qui marchent bien, finalement, vous n'aviez pas forcément besoin de ça.
Non, j'avais pas forcément besoin de ça. Néanmoins, on a une petite histoire. Nous nous sommes retrouvés à devoir faire le nettoyage d'un grand hôtel pour sa fin de chantier. Nous avons été sélectionnés pour faire ce nettoyage. Tous les franchisés se sont regroupés et nous avons, alors qu'il y avait un hôtel à côté qui était également en fin de chantier, nous avons réussi à terminer 4 jours plus tôt que l'équipe, et l'équipe de ce nettoyage d'hôtel à côté était une très grosse société française.
Donc, très concurrent.
Donc on a réussi à mettre en avant cette force que les indépendants, une fois unis, peuvent avoir par rapport aux mastodontes, et bien entendu le but est de fédérer ces indépendants un petit peu de partout en France et de leur apporter cette espèce de technique de management que seules les grandes sociétés ont, alors que 70%, je vous le répète, du parc des intervenants dans le domaine de la propreté, en fait, sont de toutes petites structures. Il faut les.
Donc, vous avez envie de faire passer de la pédagogie aussi, de les faire monter
de la pédagogie,
en compétences.
Absolument.
Oui, mais comment est-ce que vous les sélectionnez, ces gens? Parce que il faut que vous soyez sûr qu'ils sont bons. Ils portent votre nom. Ils s'appellent tous Clear City. S'ils sont moyens. Ça va pas être bon pour le réseau. Comment est-ce que vous les sélectionnez? Parce que c'est ça aussi la franchise.
Alors, bien entendu, je compte faire appel à des cabinets justement de recrutement pour pouvoir établir des tests sur les postulants. Il y aura également une phase d'apprentissage du métier en direct avant de s'investir et de se lancer.
Donc on va nettoyer en gros.
Voilà, il faut savoir quand même ce que le métier du nettoyage au sens vraiment professionnel implique. Donc toutes ces évaluations seront faites avant de se lancer.
On a l'impression que rien ne vous fait peur. Vous avez un côté force tranquille comme ça. Peut-être que vous avez déjà géré tellement de challenges, mais
c'est vrai parce que
étape par étape, vous
Frédéric
avancez.
Frédéric est autodidacte. Il n'a pas fait de grandes études, mais on sent qu'il a beaucoup réfléchi à son entreprise. Il a les idées très carrées. Il est très posé. Hein. Je vous vois, vous êtes bien installé là. Vous êtes très posé. Vous dites les choses calmement, de façon structurée, effectivement. On sent qu'il y a derrière l'énergie pour faire les choses. C'est assez impressionnant.
De quoi vous êtes le plus fier à ce jour, Frédéric?
De mes franchisés, parce qu'ils ont ils sont eux aussi partis de rien, et je pense que vraiment c'est cette aventure est vraiment très intéressante, et plus on sera, mieux ce sera.
Alors justement, plus vous serez de franchisés, plus mieux ce sera certainement, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait que vous vous entouriez peut-être d'un vrai, pardonnez-moi, c'est pas contre vous, mais d'un vrai spécialiste de la franchise qui vous aide à passer les étapes.
Ah mais tout à fait, c'est prévu. Je pense qu'il est bon. Je connais très bien mon cœur de métier. Je suis à même donc d'apporter tous les conseils nécessaires pour l'accomplissement des tâches de nettoyage. Il n'empêche que l'animation d'un réseau de franchise implique une personne qui est véritablement un animateur, également au niveau même des questions financières. Pour le développement financier. Je n'ai pas la prétention d'avoir toutes les connaissances. Maîtrise bien ce terrain, mon terrain, le terrain technique, et je compte effectivement m'entourer de tous les services nécessaires pour développer la franchise.
Il y a une fédération aussi des acteurs de la franchise en France. Je ne sais pas, est-ce que c'est une ressource pour vous ça, de vous rapprocher de cette structure.
Oui, c'est un label intéressant. C'est un label qui valide, c'est vrai, la franchise. Au niveau de mon métier, je vais privilégier le label donc Caliprop, qui lui valide donc vraiment le métier en lui-même. La franchise, oui, pourquoi pas, tout à fait.
BFM Academy 2012. Le 23 juin, il n'en restera qu'un.
Eh bien déjà, il va en rester un au terme de cette émission. Vous allez vous rendre sur le www.bfmbusiness.com pour choisir entre les eaux de pluie de Xavier Mirabel. Ah oui, c'est irrésistible. Ben oui. Opluvia.com ou alors Clear City avec Frédéric Franqui. On vient d'en parler à l'instant. Alors on va terminer avec notre petit rendez-vous sur nos précédents candidats. La liste est longue. Toutes les semaines, on en redécouvre un. Alors en l'occurrence, c'est une. Et puis elle devait témoigner, mais elle a plus de voix. Donc du coup, c'est Eve qui va nous faire un peu son actualité. Je vous rappelle de qui il s'agit. Elle s'appelle Harmony Span, un nom qu'on n'oublie pas. Elle était venue l'année 2008, elle était venue exactement les 17 et 18 mai 2008 avec son entreprise En Harmonie, créateur de mariage, le mariage clé en main haut de gamme, voilà, qui est En Harmonie en un seul mot.fr. En Harmonie en un seul mot.fr. Qu'est-ce qu'on raconte sur Harmony Span?
Ben, je serai donc sa voix aujourd'hui puisqu'elle est à Faune. Alors, Harmony Span, c'est effectivement quelqu'un qui a une agence de wedding planning, d'organisation de mariage installée à Boulogne, si je me souviens bien. Elle a déjà un premier ouvrage l'année dernière dans une petite collection qui s'appelle Patch, qui est un peu dans le style de, vous savez, l'informatique pour les nuls, etc. Donc là, c'était Avoir le plus beau mariage. C'est aux éditions First, c'est dans la collection Patch. Et cette année, enfin là, il y a quelques jours, elle a sorti l'organiseur de mon mariage. C'est un grand classeur, toujours chez First Edition, où dans différentes rubriques, préparation, un mariage, mariage à notre image, la cérémonie, la réception et le jour J. On a tout un tas de fiches conseils, de checklists, de choses à pointer, de renseignements à noter.
Quand on voit l'épaisseur du machin, c'est à se demander s'il ne faut pas un numéro de siret pour se marier.
C'est un job à plein temps, le faire-part, les noms, prénoms, enfin... Écoutez, je suis sûre que les jeunes femmes ou peut-être les hommes aussi s'y mettent, seront ravis de se plonger dans ce genre d'ouvrage. Alors, c'est plutôt joli, un peu girly.
Ça donne envie de se marier. Vraiment.
Avec des couleurs, ça donne envie de se remarier. Transport, table, plan de table. Bon, c'est une fille, on s'en souvient, très pragmatique et très organisée. C'est pour ça qu'on vient la voir, évidemment. Et j'ai l'impression qu'elle a tout prévu. Alors moi, ça date un peu, je ne sais plus tout ça. Sélection des lectures pour la cérémonie, des suggestions de disques, de musique à avoir. Et puis des conseils sur le style du marié, cravate, lavalière, nœud papillon.
Il n'y a pas des discours
bretelles.
Qui sont déjà écrits, c'est très important le discours de mariage. Il n'y a pas, il n'y a pas des modèles
père.
De discours.
Avec des trous et on remet les prénoms.
Père, le discours du, ce serait bon.
Cher
ça.
Totote.
Voilà, le discours du beau-père.
Mariage écolo, si on
c'est
veut.
Drôle,
astuces pour faire soi-même ses décorations florales. Bon, c'est bien fichu. C'est rigolo, un classeur. C'est bon. On peut ajouter des choses dedans. Il y a même une petite pochette pour mettre des cartes de visite à la fin.
Wesh.
Voilà. Bon, l'organiseur de mon mariage par Harmony Span.
Alors il ne manque plus que le guide du divorce pour les Parisiens, puisqu'il y a déjà trois mariages sur quatre qui finissent mal. Bon, donc Harmony va commencer à travailler là-dessus.
Puis on va sortir organiser son Pax aussi. En tout cas la bonne nouvelle c'est qu'elle est venue nous voir en 2008 et qu'elle sort ça. Donc voilà, En Harmonie existe toujours et Harmony Span continue son aventure depuis Boulogne-Billancourt. Elle a créé l'entreprise en janvier 2008. www.enharmonie.fr, voilà pour le témoignage de la semaine. Sinon, vous votez sur le www.bfmbusiness.com pour l'un ou l'autre de nos candidats. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine.
Maintenant, votez sur bfmbusiness.com pour élire le vainqueur de BFM Academy saison 7.